la Pentecôte, j'ai amené le don que le Père avait promis lors de ce qu'on avait célébré, c'est-à-dire le céder de Pâques, c'est-à-dire la soirée, la veille de Pâques, puisqu'on a, nous, été dans la nuit, on a célébré le culte le soir. Et il est d'usage chez les Juifs que celui qui trouve la partie cachée du pain azim, du milieu, c'est-à-dire ça représente Jésus-Christ qui est brisé, enveloppé dans un drap, les Juifs font toujours la même chose. Il dit aux enfants, le père de la famille cache le pain et celui qui trouve recevra un cadeau à la Pentecôte. Tous les Juifs font ça. Ils reçoivent le cadeau à la Pentecôte. Donc j'ai amené ce cadeau et c'était Aurélie qui avait trouvé cela. J'avais même oublié. Alors où est Aurélie? Voilà. Alors si Aurélie ne cherche pas ce cadeau, ce don, elle ne pourra jamais recevoir le don de la Pentecôte. Voilà. Merci Aurélie. Aurélie vient d'ailleurs dire Aurélie, or vers la lumière, je crois son nom. C'est quelque chose avec la lumière. Quelqu'un qui est en route vers la lumière, voilà Aurélie, avec le cadeau. Et ce cadeau que les Juifs non messianiques, mais traditionnels, donnent à celui qui a trouvé la partie brisée, ensevelie dans le linge blanc. Et ça rappelle, pour nous chrétiens et Juifs messianiques, ça rappelle ce pain sans levain brisé, le corps de Christ brisé à Pâques, et il va nous donner un cadeau. Et c'est le cadeau de Pentecôte, le don de la Pentecôte. Et si je peux demander quels sont les différents noms de Pentecôte, 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 ça vient du grec Pentecosté, qui veut dire le 50e jour. Ça a quelque chose à voir avec 50. Il y a d'autres noms dans la Bible. Luc avait parlé tout à l'heure de la fête de Pentecôte. On sait très bien que c'est là qu'au mont Sinaï, il y a eu le don de la Torah. Et les Juifs appellent cela Matan Torah, c'est-à-dire don de la Torah. Tous les Juifs savent, parce que c'est écrit dans Exode, chapitre 19, au troisième mois, ils arrivèrent dans le mont, auprès du mont Sinaï. Donc, ils savent que ce moment-là, c'est le summum, c'est là que Israël est né, parce qu'ils ne sont pas nés en sortant d'Égypte, ils sont nés quand ils ont reçu la Torah. Et notre anniversaire en tant que chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit le même jour, acte 2, l'anniversaire de l'Église et l'anniversaire d'Israël, c'est le même jour, à 1500 ans d'intervalle. Alors, en fait, avec eux. Les Juifs ont la chance de fêter la Pentecôte toujours à la même date, le 6 du troisième mois, le 6 Sivan. Le mot Sivan, c'est le troisième mois, vous le trouvez dans Esther chapitre 9. C'est là où Mardoché avait fait les décrets pour, en quelque sorte, épargner aux Juifs la destruction. Ça, c'est une autre histoire. Mais le mot Sivan est un mot qui veut dire marqué. Ça veut dire que c'est le mois qui marque. C'est le mois qui nous marque. C'est la marque sur nous. Nous sommes marqués. Nous ne pouvons plus changer. Nous sommes comme tamponnés. Nous sommes en quelque sorte pris. Le mois, le 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme qui est marqué par Dieu. Le 6, Sivan. Toujours, les Juifs ont fêté Pentecôte mercredi dernier. Et un autre nom de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'est marqué, j'ai bien aimé là une prophétie sur les fruits, c'est le Yom, le jour des prémices, des premiers fruits. Yom ha-bikurim, bikurim veut dire les fruits. C'est ça, le jour des premiers fruits. Le jour où nous avons été les premiers fruits pour Christ à la Pentecôte. le jour des premiers fruits, ha yom ha kibikuri. Mais ensuite un autre nom qu'il faut peut-être connaître, c'est que à la Pâque, à Pessah, ils élevaient une gerbe d'orge et qu'ils l'agitaient de part et d'autre le jour après le Shabbat. C'est-à-dire, en principe, c'était le jour de Pessah, parce que c'était le soir. Et cette gerbe d'orge qui était élevée, c'est ça la résurrection de Christ. C'est d'ailleurs ce jour-là que Christ est ressuscité. C'était, si vous voulez, le début de la moisson de l'orge. Et la Pentecôte, c'est le début de la moisson du blé, du froment. Et le mot moisson du froment, c'est katsir. Hak katsir, la moisson du froment. C'est la moisson du blé. Le blé et l'ivraie sont mélangés. Mais la moisson a commencé à la Pentecôte. La première fois que Pierre a prêché, il y avait 3000 prémices, 3000 chrétiens, 3000 nés de nouveau qui sont sortis. C'est ça le début de la moisson. Et cette moisson continue. Si vous voyez, les fêtes juives, c'est un plan de salut pour l'humanité. Les quatre premières fêtes sont passées. Pentecôte étant la quatrième. Je vous ai dit la dernière fois que Pentecôte est en principe le huitième jour de la fête de Pâques, séparé par 49 jours d'attente. Comprenez ? Séparé par 49, par 7 Shabbats d'attente. 7 Shabbats, il fallait attendre. L'attente, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que je vous envoie du ciel ce qui était promis. Donc si vous voulez, les Juifs répétaient tous les ans cette attente. Ils appelaient cette attente le temps de Homer. Homer veut dire la gerbe d'orge. Le temps où la gerbe était élevée, de ce jour-là, il comptait. C'est une espèce de compte à rebours, countdown. Il comptait pas 10, 9, il comptait 1, 2, 3. Et le 50e, c'était arrivé. C'était l'allumage de la fusée, ça partait. À l'époque, c'était descendu, le feu était descendu du ciel. Et à Pentecôte aussi, à notre Pentecôte, le feu est descendu du ciel. Voilà quelques idées. Donc la moisson du front, la moisson du blé, on est en plein dedans. On se demande, mais quand est-ce qu'elle va se terminer, cette moisson? Quand est-ce que Christ va revenir? C'est marqué qu'il reviendra aux dernières fêtes. Ça veut dire, il y a un temps où la moisson du blé est terminée, l'aridité de l'été, la dureté de la vie, les problèmes que nous avons, les souffrances, tout ça, on est dans l'été en ce moment, on est peut-être déjà à la fin, vers l'automne, parce que vous pouvez calculer exactement du 6 Sivan jusqu'au premier du septième mois, c'est le Rosh Hashanah, quand il y avait le nouvel an juif, du 6 Sivan jusqu'au premier de Rosh Hashanah, on dit que c'est là que la trompette va sonner, que Christ va descendre, il y aura ensuite les 10 jours terribles jusqu'à Yom Kippour, et ensuite il y aura Soukhot, la fête des cabanes, comme on dit en France. Donc il y a exactement 112 jours, j'ai compté. On ne sait pas quand reviendra Christ, mais on sait que c'est un temps déterminé. Et Christ reviendra à ce fameux jour des trompettes. Est-ce que ce sera en automne? Je ne veux pas maintenant faire de calcul ni de pronostic, mais il y a d'autres livres de Gwen Shaw qui parlent de tout cela, mais laissons cela. Ce que j'aimerais dire, c'est ce cadeau que j'ai donné à Aurélie, c'est le cadeau du Père. Et j'aimerais dire que la promesse de ce Père, du Père céleste, à qui a-t-il donné pour la première fois cette promesse que le Saint-Esprit descendrait du ciel et qu'il habiterait dans un corps humain mortel. Corps humain mortel. Ça, c'est, je dirais, ça, c'est fantastique que Dieu ait accepté cela. Est-ce que Dieu aurait changé ses critères de sainteté? Parce que le corps humain mortel, il ne pouvait pas recevoir la plénitude de Dieu? Non. Il a donné cette promesse, c'est pour ça que Christ a dit à la croix, « Tout est accompli ». Ça veut dire quoi, « Tout est accompli » ? Il voulait dire que l'alliance avec Abraham était accomplie par Christ. Et la promesse du Saint-Esprit a été donnée à Abraham. Au moment où Abraham a offert son fils Isaac, l'ange est descendu une deuxième fois et lui a dit, « Parce que tu as fait cela, je te jure que j'accomplirai cette promesse. » Et ça, c'est repris dans Hébreux chapitre 6, la même chose. Ça, c'est Genèse 22, Hébreux 6. L'ange a dit, et là, Hébreux nous dit, que Dieu a donné une promesse et il a donné un serment, il a juré. Et par deux choses immuables, Dieu ne peut pas se rétracter. Il a juré sur lui-même. Il a dit, si moi, je cesse d'être Dieu, cette promesse n'aura pas lieu. C'était vraiment fort, cette promesse, ce serment de Dieu, c'est écrit dans Hébreux 6. Et c'est pour ça qu'il a dit à Abraham, quand il a voulu offrir son fils, « Parce que tu as fait cela, je te bénirai pour que tu sois une bénédiction, je te multiplierai pour que tu sois un multiplicateur pour toutes les nations. » Enfin résumé. Et pourquoi j'ose dire que la promesse d'Abraham, c'est la promesse du Saint-Esprit? Parce que c'est écrit dans Galates, chapitre 3, verset 14. Si tu peux le projeter, tu peux le faire, mais c'est un verset qui dit que la bénédiction d'Abraham aux nations, c'est que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Voilà. Et c'est arrivé, la bénédiction, Dieu a juré, Dieu l'a donnée, comme parce qu'Abraham voulait donner son fils. Et Dieu a dit, attends Abraham, c'est moi Dieu qui va donner mon propre fils. Tu vois, il a donné le nom du lieu où Abraham a fait cette expérience, ça s'appelait Yahvé, Jéhovah, Jireh en France, Jireh. Et Jireh veut dire... Dieu va pourvoir à l'offrande du Fils. On dit souvent, Dieu va pourvoir à mes besoins. Oui, d'accord, mais Dieu va pourvoir à l'offrande de ce Fils. Et il l'a fait. Donc vous voyez, les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, ils ont tous dit qu'un jour, la loi ne sera plus inscrite sur les tables de pierre, mais la loi sera inscrite sur les tables de chair, dans les cœurs. Et ils ont dit, vous connaîtrez Dieu parce que j'inscrirai cela. L'Esprit descendra dans la chair, dans les cœurs. Et ça, c'est... Moi, je croyais toujours que ça allait arriver un jour après, quand Jésus sera revenu. Non, c'est arrivé maintenant. C'est arrivé à la Pentecôte. Dieu a écrit, non sur les pierres, mais il a écrit dans notre chair, la loi. Il a donné l'Esprit qui vivifie. La lettre qui tue. Et qu'est-ce que c'était la loi entre-temps? La loi, c'était un pédagogue pour apprendre à Israël quels étaient les degrés de sainteté de Dieu. Et je veux dire que quand vous lisez dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 3, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle, moi, je n'aime pas utiliser le mot « nouvelle alliance ». Pour moi, c'est l'alliance d'Abraham accomplie par Jésus-Christ. Il n'y a pas des milliers d'alliances. Il y a une alliance. Et c'est l'alliance d'Abraham dans laquelle nous sommes. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham et filles d'Abraham. Nous sommes, Abraham, c'est le Père, notre Père. C'est lui le premier. Donc il n'y a pas des milliers, sept ou huit alliances. Il y a une alliance accomplie par Christ quand il a dit « Tout est accompli ». Excusez-moi pour la traduction, mais vous suivez. Tout est accompli. De ce fait, cette alliance d'Abraham, c'est la nôtre. Alléluia. Et maintenant, je viens à Pentecôte. Pentecôte, j'ai dit, c'est le 8e jour de Pâques, arrivant avec 49 jours de retard. Pentecôte est rattaché avec une corde à Pâques, puisqu'il compte. C'est le temps de Homer. Et quand j'ai étudié un peu l'histoire d'Israël, l'Israël moderne, toutes les grandes choses d'Israël depuis 1948 se sont passées dans ce temps de Homer, de l'attente. La création de l'État d'Israël, le 5 du deuxième mois. La libération de Jérusalem, le 28 de ce deuxième mois. Tout s'est passé ici. Et c'est un temps sérieux en Israël. Il n'y a pas de mariage pendant ce temps d'Homère. On ne se réjouit pas, on est sérieux parce qu'on attend. On attend, on se prépare. On ne fait pas de jeûne, mais on attend. De ce fait, les Juifs appellent la Pentecôte aussi dans leur langage Shemini Atzeret. Shemini veut dire huit, l'assemblée du huitième jour. Atzeret veut dire assemblée. L'assemblée du huitième jour. Vous savez qu'à la fête des tabernacles, il y a aussi une assemblée du huitième jour où il n'y a rien à faire. On sort de la hutte et c'est un nouveau départ. Le 8 dans la Bible, c'est le chiffre du nouveau départ. Il y avait 8 dans l'arche. Il y avait 8, peut-être une gorgée d'eau. Le 8, en 7 jours, Dieu a créé la terre et les cieux. Il avait fini le 7e. Donc le 8e, c'est un nouveau jour, une nouvelle création, un nouveau départ, un nouveau temps qui arrive. Okay? C'est pour ça que le 8, aussi la circoncision a eu lieu le 8e jour toujours. David était le 8e fils de son père Isaïe. 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Et je vous donne un secret. Le 50, c'est pareil que le 8. Parce que 50, c'est 7 fois 7 plus 1. Donc c'est 7 fois la vieille création, plus 1. On fête le jubilé, le 50, hein, c'est le jubilé. Mais qu'est-ce que c'est le jubilé ? Le jubilé, c'est la libération des esclaves. Le jubilé, ça veut dire, ça vient du grec yovel, de l'hébreu, qui veut dire la corne. La corne, c'est le jour de la corne, et la corne, c'est le jour de la puissance. Je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit. C'est le jubilé. 8 et 50, c'est pareil, si vous voulez. De ce fait, on appelle des fois le 50e jour, les Juifs l'appellent le 8e de Pâques. Qu'importe. Je voulais simplement vous dire qu'il y a tellement de grandes choses que Dieu nous a données dans sa parole. Et quand vous regardez un peu ce que les Juifs lisent à la Pentecôte juive, ils lisent le rouleau de Ruth. Hein, vous savez ? Vous savez que l'Ancien Testament, que les Juifs appellent Tenach, Torah, Nebim et Ketubim. C'est donc Torah, c'est les 5 livres. Nebim, c'est les prophètes. Ensuite, des Ketubim, c'est les autres écrits. Et il y a 12 autres écrits. Et parmi ces 12 autres écrits, il y a les livres poétiques, comme les psaumes, proverbes, etc. Et il y a les livres historiques, comme Daniel, Esdras, Néhémie, Esther. Et puis, le dernier, c'est les chroniques. Et il y a les 5 rouleaux. Pourquoi on appelle ça les 5 rouleaux ? Parce que ce sont les livres qu'on lit aux fêtes juives, aux fêtes de Dieu. Qu'est-ce qu'on lit à la Pâque comme rouleau ? On lit le rouleau du Cantique des Cantiques. Il n'est pas classé parmi les poétiques, il est classé parmi les rouleaux des fêtes. Le Cantique des Cantiques à Pâques. Et qu'est-ce qu'on lit à Sukkot, cette fête des tabernacles où tout le monde danse avec force? On lit l'Ecclésiaste. Parce que vanité des vanités, toute cette vie sur cette terre, vanité des vanités, tout ce matérialisme, allons habiter avec Dieu, vanité des vanités. Ils lisent ça à Sukkot. Et qu'est-ce qu'ils lisent à Pentecôte? Ils lisent le livre de Ruth. Et évidemment, Ruth était une Moabite, exclue du peuple de Dieu pour toujours, c'est écrit dans la Bible, une impudique, un peuple impudique. Et Ruth, dans le livre de Ruth, qui veut dire l'ami, est devenue la jeune épouse des nations païennes entrant dans l'héritage d'Israël. C'est pour ça que Pentecôte, c'est là où les nations entrent dans l'héritage d'Israël. Ruth, la Moabite, devient une mère d'Israël. Est-ce que vous avez déjà lu les généalogies de Jésus dans Matthieu chapitre 1? Il y a huit femmes dans les généalogies. Honneur aux femmes. Huit femmes, et parmi les huit femmes, il y a quatre juives. Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, et quatre païennes, et pas n'importe quelle païenne. Une prostituée, une qui s'est déguisée en prostituée, une impudique et une adultère. Vous connaissez les noms. L'adultère, c'est Bathsheba. La première dont j'ai parlé, Tamar, qui s'est déguisée en prostituée, la deuxième, Rahab, la prostituée de Jéricho, la troisième, Ruth, qui est devenue l'arrière-grand-mère de David. Donc, une Moabite d'un peuple d'impudiques devient l'arrière-grand-mère de notre Messie. Il y a de l'espoir pour la France et pour l'Allemagne. Et pour l'Amérique aussi, il y a de l'espoir. On a un Dieu merveilleux qui est plein d'espoir, qui est plein de bonté. Il laisse entrer toutes ces personnes là-dedans, dans sa généalogie, et on lit ce livre de Ruth, qui est un livre fantastique, je vous conseille de le lire. Il commence à la moisson des orges, quand deux femmes reviennent à Bethléem. On prend souvent ce verset pour les mariages, moi je ne l'aime pas trop pour les mariages. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où je demeurerai, là où tu meurs, je meurs, etc. Bien sûr, c'est bon pour un mariage, mais c'est bon pour les nations. Il faut accepter et aimer et honorer Israël. C'est ça qu'il faudrait, et pas le donner à d'autres. Bien, on peut le prendre pour le mariage, mais d'abord, c'est Israël et les nations. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu demeures, je demeure. Là où on te fait mal, on me fait mal. Là où on t'honore, on m'honore. C'est cela qu'il faudrait avoir par rapport à Israël. Et c'est ça le message de Pentecôte. Cet héritage d'Israël qui est ouvert aux nations. Et vous savez qui a épousé Ruth dans le livre? Boaz. Boaz veut dire Béoz. En toi est la force. L'homme de Bethléem, puissant et riche. L'homme de Bethléem, puissant et riche, Jésus-Christ, ici en symbole Boaz, a épousé les nations. Et ça, c'est arrivé à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, on offrait aussi, ça c'est aussi très bizarre, on offrait dans le temple deux pains, des pains jumeaux, avec du blé, mais avec du levain. Des pains de froment, de blé, avec du levain. Alors que 49 jours avant, quiconque avait du levain dans sa maison était mis à mort. Et subitement, on offre à Dieu des pains avec du levain. Est-ce que Dieu aurait changé ses critères? Non. Dieu voulait dire qu'il va descendre à la Pentecôte dans des corps mortels, des vases de terre, qui ne peuvent pas vraiment encore le contenir pleinement, mais toute la plénitude que ce vase veut, je te le donne. C'est pour ça que ce levain symbolise cet homme fragile, cet homme qui est sorti du péché, mais dont le corps n'a pas été changé. Notre corps sera changé quand on le déposera et que nous serons débarrassés du vieux vêtement. Mais avant, Dieu veut habiter dans nos corps mortels. C'est pour ça qu'il y avait ce levain. Et c'est pour ça que Dieu a permis cela à la Pentecôte. D'ailleurs, c'est très spécial. En Allemagne, ils font une fête environ, ça s'appelle Fronleichnam, où ils promènent le corps de Christ en hostie dans les rues pour bénir les champs. Et alors, ils décorent les rues avec des fleurs et des fruits. Et c'est vraiment des pavés de fleurs. Et ils ont pris ça aux Juifs. Parce que les Juifs faisaient ça à la Pentecôte. Ils décoraient et ils amenaient les fruits. Et les fruits, cette corbeille de fruits, ils pouvaient la déposer jusque devant l'entrée du lieu très saint, alors que personne ne pouvait aller entre l'autel des holocaustes et la porte d'entrée, le voile du lieu très saint et saint. Donc c'est là qu'ils avaient le droit d'approcher à la Pentecôte. Ça, c'est tous des petits signes qui nous montrent que Dieu avait en vue cette grande chose de nous donner son Esprit Saint, et à toutes les nations, et même des adultères, des prostituées. Alors bien sûr, il faut changer de conduite, mais il est prêt à ne pas, à nous pardonner nos péchés. Gloire à Jésus. Maintenant, pour finir, j'aimerais juste vous... Oui, on pourrait étudier dans la Bible l'ancienne alliance, l'alliance du Sinaï, et l'alliance du mont Sion. Vous connaissez ce beau texte dans Hébreux chapitre 12. Vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sinaï qui était en feu et qui vous faisait peur, et c'était terrible. Moïse disait même, je ne veux pas m'approcher de là. Mais vous vous êtes approché à la Pentecôte de cet élément. Hébreux 12, vous approchez de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant et de la Jérusalem céleste. Ça, c'est un élément. Et vous êtes approchés, tout à l'heure, j'ai entendu les anges qui entraient, du cœur des anges qui chantent, qui adorent Dieu. Deuxième élément. Troisième élément, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés dans le ciel. C'est qui ça? Quand Jésus est monté au ciel, il a été dérobé par une nuée, c'est les captifs de l'ancienne alliance qu'il a emmenés, nés de nouveau au ciel, c'est la nuée. Et cette assemblée était au ciel, c'est l'ancienne alliance des assemblées des premiers-nés. Et vous êtes approchés, cinquièmement, du juge, de Dieu le juge, sixièmement, des esprits des justes qui sont arrivés à la perfection. Ça c'est nous quand on meurt, on dépose le corps et on monte. On a le droit de monter, on est dans les esprits des justes qui sont arrivés maintenant sans leur corps dans la perfection. Et sixièmement, vous êtes approché de Jésus, le médiateur. Et septièmement, vous vous êtes approché du sang de l'agneau qui parle. Vous avez déjà entendu que le sang peut parler mieux que celui d'Abel. Je crois que quand quelqu'un répand le sang dans le crime, le sang de la terre parle. Il y a des endroits où le sang d'innocents parle. Des endroits maudits qu'il faut bénir et qu'il faut délivrer. Mais il y a aussi le sang de Christ qui parle. Et moi, j'ai bien aimé Reinhard Bonnke, l'évangéliste Bonnke, qui disait qu'il était interrogé à la télé. Les incroyants lui disaient, mais qu'est-ce que vous racontez? La puissance du sang de Christ. Pourquoi vous parlez de la puissance? Regardez le nombre de gens qui ne sont pas sauvés sur la terre. Alors il a dit, monsieur, regardez le nombre de savants qu'il y a dans le monde et le nombre de gens qui sont encore malpropres. Il faut accepter le cadeau. Il faut dire oui à ce cadeau, sinon on reste dans la situation. Okay? Ça veut dire que le sang qui parle... Pourquoi, quand moi je répands du sang par terre, ce sang, il se détériore. Ce sang, c'est un organe fragile qui se détériore tout de suite. Mais le sang de Christ, plus précieux que l'argent et l'or périssables, c'est écrit. Christ l'a monté au ciel. Il l'a monté au ciel. C'est le meilleur endroit pour conserver le sang. Il n'y a pas d'autre sang au ciel que celui de Christ. Et vous savez, quand il l'a monté au ciel, il l'a monté au ciel juste après la résurrection, après qu'il ait eu le contact avec Marie-Madeleine, quand elle lui a dit « Ne me touche pas, dit Jésus, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté près de mon Père. » Il avait une mission, on ne sait pas quand, mais il est monté au ciel, amené son sang, puis il est redescendu, et pendant 40 jours, il a discuté avec ses disciples pour les convaincre de leur incrédulité et pour leur parler de choses, parce qu'ils ne comprenaient rien du tout, les disciples. Ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas nés de nouveau, puisqu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, ils ne comprenaient rien. Mais ils étaient, en quelque sorte, en mouvement. Non, pour finir, je me suis arrêté maintenant sur cette alliance, l'ancienne et la nouvelle, la Torah qui tue, et l'Esprit qui vivifie. D'ailleurs, si vous êtes des gens qui aimaient la Bible, lisez voir quand la Torah est descendue du ciel, ils ont fait le veau d'or, et combien ont été tués quand Moïse est descendu ? Exactement 3000. Et les 3000 de la Pentecôte qui sont nés, qui ont été rendus vivants, c'est un parallèle entre la Torah qui tue et l'Esprit qui vivifie. La lettre qui tue et l'Esprit qui vivifie. Donc, lisez bien ces textes parce que c'est puissant. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte ? Acte 2, versets 1 à 4, peut-être tu peux le projeter, et 11 et 12 encore. Et avec ça, on va finir pour que vous ayez une idée de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Parce qu'il fallait attendre. Jésus a dit, attendez à Jérusalem, attendez. Et tout d'un coup, il y a ce vent impétueux qui vient du ciel, qui remplit la maison, etc. Et alors, pour moi, il y a quatre choses qui se sont passées à la Pentecôte. Premièrement, ils étaient des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Quand l'Esprit est descendu, ce n'est pas un groupe, mais c'est chacun individuellement qui est touché. Pour moi, à la Pentecôte, la première chose, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais le mot baptisé ici a un sens des fois bizarre. Baptisé, ça veut dire immergé. Ils ont été immergés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils en sont sortis comme l'enfant sort du ventre de la mère, de l'utérus. L'enfant sort, ils sont sortis de cette immersion, ils sont sortis de l'utérus, du sein de Dieu, et ils étaient une nouvelle créature. Pour moi, ils sont nés de nouveau à la Pentecôte. La nouvelle naissance. La nouvelle création. D'ailleurs, l'ancienne création avait un paradis, mais on a été mis dehors. La nouvelle création, le paradis, c'est dans cette chambre haute. L'homme est né de nouveau. C'est-à-dire, Dieu a retrouvé Adam qu'il avait perdu et Ève qu'il avait perdu. Il les a retrouvés parmi les 120 de la chambre haute. Et il a fait d'eux une nouvelle créature. Ils ont reçu la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ? Ce n'est pas une adhésion à un parti religieux. Ils ont été changés radicalement. Ils ont reçu la nature de Dieu qui est une nature d'amour. Ils ont reçu cette nature à sa Pentecôte. Avant, ils étaient peut-être comme ça, ils avaient peur, ils étaient frustrés, Pierre a renié, mais là, ils ont reçu une autre nature. Ils sont nés de nouveau, Jésus-Christ étant né de nouveau, je l'ai dit à Pâques, en enfer. Excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas là, mais je ne reviens pas. Jésus est le premier né d'entre les morts, il a dû mourir spirituellement pour porter notre mort spirituelle. Et ensuite, il est né de nouveau en enfer. Et ça, c'est les autres, les premiers 120 qui naissent de nouveau à la Pentecôte. Parce qu'ils ont été ils ont été pris dans l'Esprit de Dieu. Et c'est une nouvelle famille qui naît. Le diable pensait s'être débarrassé de Jésus, mais il y a 120 nouveaux Jésus qui sont là. 120 nouveaux. Et après 3120. Et après des 5000. Et après des 10 000. Le diable ne savait pas que tout cela allait arriver. Mais il a été vaincu. Donc, la première chose, pour moi, il y a la nouvelle naissance. Pierre ne comprenait pas. Vous dites peut-être, non, c'est marqué dans Jean 20. Il souffla sur eux et dit, recevez mon esprit. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est pour ouvrir leur compréhension pour les Écritures, c'est marqué. Et là, pour qu'ils soient un peu plus éclairés, mais de l'extérieur, c'est comme si on avait un projecteur qu'on mettait sur eux pour qu'ils soient plus éclairés. Mais l'Esprit est vraiment venu dans leur corps à ce moment-là, dans leur esprit et dans leur personne. C'est le baptême de l'Esprit pour moi, la nouvelle naissance. Excusez-moi si j'utilise des termes que vous utilisez autrement, mais laissez-moi finir. Le baptême de l'Esprit qui est la nouvelle naissance. Ensuite, ils ont reçu ces flammes de feu. Ça, c'est le baptême de feu. Vous serez baptisés d'Esprit et de feu. Qu'est-ce que c'est les flammes de feu? Les flammes de feu, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la force. Nous avons de l'autorité dans ce monde. Jésus a dit, vous aurez la même autorité que moi, vous serez semblables à moi. Cette flamme de feu, ses disciples l'ont utilisée dans les actes des apôtres. Avant, ils étaient faibles, ils avaient peur, mais là, ils n'avaient plus peur de rien. Ça, c'est l'autorité, baptême de feu. Et ensuite, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 4. Pour moi, c'est ça, certains appellent ça le baptême. C'est-à-dire cet esprit, la plénitude du Saint-Esprit qui est passée de leur intérieur, de leur cœur, est allée jusque dans leur corps. Ils ont été remplis d'un coup. Ça, c'est un peu mon expérience. Quand moi, je me suis donné au Seigneur une nuit, tout seul dans une chambre, je n'étais pas converti. Pendant une nuit, je suis né de nouveau. L'Esprit est descendu sur moi, je sentais comme de l'eau, du feu qui descendait en moi, tout est devenu léger, et je commençais à parler en langue. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que c'était la conversion. J'avais une Bible, et j'ai prié, si c'est toi le Dieu de cette Bible, réponds-moi. Ça remonte à un certain temps, quand j'étais étudiant. Donc moi j'ai expérimenté la nouvelle naissance et le baptême de l'Esprit en même temps. Enfin, ce que vous voulez appeler baptême, la plénitude. Ouais. Donc ils ont été remplis, et la troisième ou la quatrième chose, ils se mirent à parler en d'autres langues. Versets 11 et 12. C'est parce que moi je trouve qu'il faut bien lire ça. Pourquoi nous entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, la plénitude du Saint-Esprit, un des premiers signes, c'est le changement de notre langage. Ce n'est pas le parler en langue seulement comme ça qu'on connaît dans les églises, c'est le changement de langage. C'est-à-dire, je ne vais plus parler, moi, de le diable, j'ai peur de lui. Je ne vais plus parler de ces choses négatives, je vais changer de langage. Et c'est ça l'important. Nous, dans les églises, souvent, on parle de ce qu'on n'a pas, on est négatif, on dit « j'ai pas de foi, j'ai pas d'amour, j'ai pas de force, je suis frustré, je n'ai pas ça, je suis découragé, je n'ai pas ça ». Mais c'est quoi ça? Il faut dire « ce que j'ai, je te le donne », dit Pierre. Il faut enfin savoir qui on est, ce qu'on a, ok? Un des versets que je préfère dans la Bible, c'est Hébreux chapitre 10, verset 14. Écoutez bien ce verset. Par une offrande, Christ a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Alors ne cherchez pas à dire que je ne suis pas parfait. On est parfait en Christ. Amen. Dites que je suis parfait en Christ. Dites que j'ai la victoire en Christ. Dites que j'ai tout pleinement en lui. Dites que tout m'appartient. Dites que j'ai toute autorité. Et ne dites pas autre chose. La parole est si importante. Hein, parce que c'est écrit que le nouveau paradis que nous avons, hein, maintenant, c'est le paradis avec Jésus comme arbre de vie, et il y a quatre fleuves qui sortent de ce paradis. Vous connaissez les quatre fleuves du premier paradis ? Le Gishon, je crois, le Dishon, l'Euphrate et le Péon. Enfin, je pourrais faire là un truc, mais je veux dire simplement, c'est important, donne-moi les quatre noms du fleuve. Et c'est des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, dit Jésus. Amen. Et je dois dire que ces quatre fleuves coulent de notre sein. On n'a pas peur d'avoir peur du chaos là. On n'a peur de rien. Nous déversons ces fleuves de Dieu. Ok. Je crois que je vais terminer, mais il y a une chose que j'aimerais qu'on fasse. Ceux qui sont nés de nouveau, qu'on fasse ensemble une proclamation. Ok. Alors vous pouvez vous lever. On va répéter après moi la proclamation qu'on est un temple du Saint-Esprit. Ceux qui veulent parler avec moi, c'est ceux qui veulent, ou bien ils sont déjà nés de nouveau, ou alors, s'ils veulent naître de nouveau, qu'ils disent « ouais, je veux devenir cela ». Ok ? Alors, je pars de « mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Ok ? « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Racheté, délivré, purifié, sanctifié par le sang de Christ. Racheté, délivré, purifié, sanctifié par le sang de Christ. Tous mes membres, les parties de mon corps, sont des instruments de justice. Tous mes membres, les parties de mon corps, sont des instruments de justice. Et maintenant, écoutez bien. Ils ne sont plus à la disposition du péché. Ils ne sont plus à la disposition du péché. Le diable ou l'adversaire n'a plus d'espace en moi. L'adversaire n'a plus d'espace en moi. Il n'a pas d'autorité sur moi. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Je l'ai vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de mon témoignage, et parce que je mets ma vie à sa disposition jusqu'à la mort. Mon corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour mon corps. Le Seigneur est pour mon corps. Amen. Ça, c'est une proclamation que je fais tous les jours. Alléluia. Et c'est très puissant. Parce qu'on dit, je mets mes membres à la disposition de la justice. J'ai oublié de dire pour glorifier Dieu et pour le servir. Voilà ce que j'ai oublié. Pour glorifier Dieu et pour le servir. Et je prie, Seigneur, maintenant que tu remplisses chacun ici de cette plénitude de vie, de cette plénitude d'esprit, Seigneur. Ils ont déjà là, mais merci parce que tu veux faire une chose nouvelle. Et peut-être on peut prier les uns pour les autres, vous mettez une main sur quelqu'un, vous dites simplement, je prie que l'esprit te réanime, réavive ton cœur et qu'il revienne en toi et que l'espace de tout ton être soit envahi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez pour que l'Esprit puisse couler librement dans vous et couler librement de vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour la Pentecôte. Merci pour la victoire. Merci pour ton Esprit qui est venu sur nous, sur nos corps mortels. Merci parce que nos corps mortels sont des temples du Saint-Esprit. Merci parce que l'Esprit coule, Seigneur, de nous. L'Esprit nous donne la vie. L'Esprit donne la vie. Pas la mort. L'Esprit qui vivifie vient sur vous. Ô Jésus, que gloire te soit donnée. Que gloire te soit donnée. Que gloire te soit donnée, Seigneur, pour tous nos amis ici. Merci pour les nations. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, maintenant et pour toujours, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Ces quatre fleuves dont je parlais, je voulais juste vous les citer parce que c'est important. C'est le Guion, c'est le premier fleuve. C'est marqué, c'est le Guion qui entoure le pays où il y a l'or. Et ce Guion nous amène l'or de la gloire de Dieu. Okay? Et ensuite, le Pichon, c'est le pays qui entoure le fleuve qui entoure le pays de Cush, du chaos. Et P, c'est la bouche. C'est par ta bouche que tu circonscris le chaos. Le Pichon qui entoure le pays du chaos. Et ensuite, le Hidekel, qui coule vers l'Orient, qui coule vers la lumière. Ton fleuve en toi t'amène toujours dans la lumière, comme pour Aurélie, la lumière. Et le dernier, c'est l'Euphrate, et où le fleuve qui t'amène toutes les bonnes choses, et où les bonnes choses de Dieu. Euphrates. Moi, j'aime bien ces quatre fleuves. Ils coulent chez toi, ils coulent chez toi, ils coulent chez toi, ils coulent chez nous, et qui coulent tous les jours. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein à chaque instant. Mais c'est la seule chose qu'il faut faire, il faut faire ses devoirs à la maison.